Chapitre 2 Élie et Élisée. Versets 1 à 12 Ascension d'Élie. L'histoire d'Élie comme prophète de jugement se termine au chapitre 1er. Le chapitre 2 nous présente la fin de sa carrière et les faits mystérieux qui accompagnèrent ce grand événement. Nous rencontrons dans la parole beaucoup de mystères, des secrets cachés de toute éternité dans le cœur de Dieu, des choses que l'œil n'avait pas vues, ni l'oreille entendues, et qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme. Ces mystères restaient inconnus dans l'Ancienne Alliance, mais il n'en est pas un seul qui ne nous soit révélé par l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Et cependant, malgré cette révélation, la parole est pleine de choses mystérieuses que l'intelligence spirituelle seule découvre. Le Seigneur pourrait, en peu de mots, nous les rendre clairs, mais il nous en laisse faire la découverte pour le plus grand profit et la plus grande joie de nos âmes. Ce n'est que par une étude faite sous la dépendance du Saint-Esprit, avec prière et par une application sérieuse aux choses de Dieu, que nous trouvons la clé de ces énigmes. C'est ainsi que nous apprenons à connaître, sous un fait simple en apparence, un sens caché, semblable au diamant que l'ignorant tient pour une pierre ordinaire, mais qui éblouira par son éclat celui qui s'applique à le tailler. La seconde partie du chapitre 1er de l'évangile de Jean, le chapitre 21 du même évangile, sont remplis de ces trésors cachés. Il en est de même de notre chapitre. Nul autre ne peut guère le surpasser en intérêt, en expériences intimes, en révélations prophétiques, en majestueuse grandeur. C'est qu'en nous présentant Élie et Élisée, il nous parle de Christ et de son esprit. C'est qu'il est avant tout un chapitre typique. À plus d'une reprise, comme par exemple dans l'histoire de la veuve de Sarepta, comparée avec Luc 4, verset 26, Dieu honora le prophète Élie en se servant de lui pour nous représenter certains caractères isolés de son bien-aimé, mais le dernier jour de sa carrière prophétique est employé à illustrer la vie, la mort, l'ascension du Messie et les bénédictions qui devaient en découler pour son peuple. Ce privilège d'Élie est, dans une mesure, celui de tout croyant, car chacun de nous est appelé à reproduire les caractères de Christ dans le monde. S'il est vrai que nous sommes en lui devant Dieu, il est aussi vrai qu'il est en nous devant le monde et que nous sommes appelés à le manifester aux yeux de tous. Si le chrétien est fidèle, il sera une copie qui fera d'emblée reconnaître son modèle. Celui qui ne voit pas dans ce chapitre la vérité dont nous parlons, n'y a, de fait, rien vu. Seulement, nous l'avons dit, tout nous y est présenté sous un jour mystérieux. Ce qui ajoute au mystère, c'est qu'Élie n'y est pas seul. Élisée, son compagnon prophète et son serviteur, ne l'abandonne pas un seul instant et le voit monter au ciel, puis revient visiter les fils des prophètes, dont les circonstances remplissent toute la suite de notre histoire. Élie, type de Christ. Et il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Le prophète a quatre étapes à faire avant d'être enlevé au ciel. Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Au commencement de sa carrière, il avait été envoyé pour ramener à l'Éternel le cœur du peuple. Sa mission accomplie fidèlement avait, en fin de compte, totalement échoué. Israël, après un retour momentané lors de la destruction des prêtres de Baal, ne s'était pas réellement repenti, et les rois avaient persisté dans leur idolâtrie. Jésus, dans sa mission, échoua de la même manière auprès du peuple remonté de la captivité. Le prophète est maintenant envoyé de Dieu, comme Christ dans les évangiles, pour retracer par la puissance du Saint-Esprit le chemin qu'Israël aurait dû suivre, mais qu'il avait semé d'infidélité et de ruines en manquant à sa responsabilité. L'Éternel m'envoie. Telles sont à chaque étape les paroles d'Élie à son fidèle compagnon. Versets 2, 4 et 6. Telles sont aussi les paroles du Seigneur dans les évangiles et surtout dans celui de Jean, où il se présente constamment comme envoyé du Père. Mais examinons d'abord quel avait été ce chemin pour Israël. L'Éternel, après avoir fait traverser le Jourdain à son peuple, avait roulé de dessus lui l'opprobre d'Égypte, par la circoncision de Gilgal, car aucun des fils de ceux qui étaient sortis d'Égypte n'avait été circoncis dans le désert. Josué 5, versets 5 à 9. Puis il avait fait tomber devant Israël Jéricho, forteresse de l'ennemi, condamnant cette ville à l'interdit et à la malédiction pour introduire à la fin son peuple dans la jouissance des bénédictions promises autrefois à Jacob en Bethel. Genèse 35, verset 9. Israël s'était-il maintenu dans ses bénédictions? En aucune manière. Toute leur méchanceté, lui dit plus tard le prophète Osée, est à Gilgal, car là je les ai haïs. À cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Bethel. Je ne les aimerai plus. Osée 9, verset 15. Et encore, venez à Bethel et péchez. À Gilgal, multipliez la transgression. Amos 4, verset 4. Jéricho, lieu de la malédiction, avait été rebâti contre l'ordre express de l'Éternel par Yel de Bethel. 1 roi 16, verset 34. Bethel lui-même était devenu, sous Jéroboam, le premier centre de l'idolâtrie, 1 roi 12, verset 29, où les péchés d'Israël s'étaient accumulés. Élie est appelé à refaire ce chemin, semé de tant de souillures. Seulement, sa foi, tout en constatant à chaque pas la ruine du peuple, revoit, retrouve les bénédictions premières, instituées de Dieu, et dont il n'a pas abandonné la réalisation. Élie reconnaît Gilgal et Bethel selon les pensées de Dieu, dans le même esprit qui lui avait fait construire son autel de 12 pierres en face des prophètes de Baal. Il s'y rend comme envoyé, dans la puissance du Saint-Esprit, sans être aucunement contaminé par leurs souillures. Il suit fidèlement le chemin qu'Israël aurait dû suivre et dans lequel il avait misérablement failli. Car, s'il avait répondu au dessein de Dieu, par un vrai jugement de la chair à Gilgal, il aurait habité avec l'Éternel à Bethel, jouissant de toutes ses promesses. Élie, conduit par la volonté de Dieu, marche seul dans ce chemin, où il n'est que le type d'un plus grand que lui. En effet, ce que le prophète ne pouvait accomplir qu'en figure, s'est réalisé à la venue du Seigneur. Lorsqu'il entrait en scène, une occasion était encore offerte au peuple juif de retrouver, sous Emmanuel, les bénédictions perdues. Le baptême de repentance, administré par Jean-Baptiste, cet Élie qui devait venir, devenait alors le Gilgal d'Israël. Il fallait y venir repentant, reconnaissant ses péchés, pour retrouver les bénédictions sous le règne du Messie. Jésus, assimilant dans son baptême le Jourdain à Gilgal, vint s'associer aux quelques excellents de la terre qui, par la repentance, devenaient enfants du royaume et héritiers des promesses dont ils avaient perdu l'accès. De cette manière, l'opprobre d'Égypte était comme de nouveau roulé de dessus eux. La chair devait subir la mort, car il était prouvé qu'elle n'avait pu entrer en possession des promesses. L'histoire du peuple dans la chair était terminée. Mais un nouvel Israël, le vrai, commençait en Christ. Lui, personnellement, n'avait nul besoin de ce chemin. Il était le saint, et l'a toujours été. Mais il manifestait publiquement au Jourdain, dès le début de son ministère, aussi bien qu'à sa naissance, ou lorsque, comme le vrai Israël, il fut appelé hors d'Égypte, que la séparation du mal, la sainteté, la justice étaient son caractère. Seulement il s'associait au premier mouvement de l'esprit en ceux qui venaient à Jean-Baptiste reconnaissant leurs péchés. Mais la nation dans son ensemble l'a rejeté. Élie monte de Gilgal à Bethel. Ce fut aussi le chemin de Christ. Ayant pour point de départ une entière consécration à Dieu, il aboutissait nécessairement à la possession des promesses que le Dieu de Jacob avait faites à Israël. Genèse 28, versets 13 à 15. Lui seul, Christ, en vertu de sa perfection, était digne d'acquérir toutes les promesses de Dieu. Pendant toute sa vie, il a choisi Bethel, la maison de Dieu. Il a pris l'Éternel lui-même, qui cachait sa face au peuple rebelle, pour refuge et pour demeure. Psaume 92. Israël n'aurait jamais dû quitter cet asile. Christ seul y est resté. Comme nous l'avons vu, Bethel était devenue pour Israël la maison des idoles. Que devait sentir Élie, mais surtout qu'a dû sentir le Seigneur en voyant cette demeure sainte avec les bénédictions qu'elle promettait, souillée par le péché de son peuple. À Christ seul, à l'homme obéissant, appartenaient donc désormais les promesses. Mais allait-il en jouir? Non. Interrogeons Élie. Il n'est pas appelé à rester à Bethel. L'Éternel l'envoie plus loin. Il lui faut abandonner le lieu des promesses pour descendre à Jéricho. C'est là que l'Éternel l'envoie. Israël avait jadis rencontré cet obstacle en montant de Gilgal. Il y avait éprouvé la puissance divine, renversant les murailles dressées par l'ennemi. Dieu avait alors prononcé l'anathème sur cette ville. Elle ne devait jamais être rebâtie. Josué 6, verset 26. Mais qu'est-ce qu'Israël avait fait de Jéricho? Un homme de Bethel avait réédifié la ville maudite. Élie y descend sur l'ordre de Dieu. Il faut qu'il suive le chemin d'Israël infidèle et qu'il le constate. Le peuple n'était-il pas comme cet homme de la parabole qui était descendu de Jérusalem à Jéricho pour tomber entre les mains de ses voleurs, les nations qui le réduisaient au pillage? Christ y descend aussi. Mais ce n'est pas, comme Élie, pour en prendre simplement connaissance. C'est pour éprouver dans son âme la malédiction prononcée sur le peuple, pour prendre et porter à sa place la colère du gouvernement de Dieu contre cette nation infidèle. De Jéricho, Élie est envoyé au Jourdain. Il abandonne Israël et Canaan en traversant ce fleuve, type si précieux de la mort. Cette mort, Élie la traverse à pied sec, en vertu de son manteau de prophète et dans la puissance de l'esprit qu'il possède. Il en fut de même de Christ. Mais ce qu'Élie ne fit pas, Christ goûta la réalité terrible de la mort avant de la vaincre et de sortir en résurrection à l'autre bord. Élie ne la traversait qu'en figure et sans qu'elle pût l'atteindre. Le Seigneur seul l'a réalisée comme terme de sa carrière. Il s'est anéanti jusque dans la mort, mais elle n'a pu le retenir. Elle s'est divisée devant la puissance de la vie éternelle qui y était descendue. Ayant vaincu la mort, il a été déclaré fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Romains 1, verset 4. Élie sort de Canaan, terre de la promesse et héritage d'Israël, sans autre chose que son manteau de prophète. S'il a visité Bethel, il ne s'y est pas arrêté. Il n'emporte rien de ce qui pourrait lui appartenir comme homme de Dieu. Il en est de même de Christ, car il fut dit de lui « Il n'aura rien ». Daniel 9, verset 26. Mais c'est là que commence pour Christ une ère nouvelle. Dieu l'avait envoyé à la mort. Pouvait-il ne pas obéir? Bien au contraire, il dresse résolument sa face pour s'y rendre. Il abandonne Canaan, son héritage et ses droits, mais il sait d'avance que c'est pour monter au ciel, après avoir passé par la mort. Élie le sait aussi, mais il y monte vivant, n'ayant passé que par le simulacre du sépulcre. La pensée de l'Éternel, qui envoyait son serviteur d'étape en étape, était de l'introduire dans un autre monde. Élie recevait ainsi la récompense d'une vie de dévouement, mêlée sans doute de quelques faiblesses humaines, à celui qui l'avait envoyé. Mais Christ reçoit celle d'un dévouement ininterrompu jusqu'au sacrifice de lui-même. C'était aussi, comme nous le verrons en parlant d'Élisée, le point de départ d'une double puissance spirituelle pour le compagnon du prophète. Hâtons-nous de le faire remarquer. Il ne s'agit pas de trouver, dans toute cette histoire, un type du Sauveur et de son œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Le récit typique n'a pas cette œuvre en vue. Cela deviendra plus clair quand, à l'histoire d'Élie, nous aurons ajouté celle d'Élisée. Notre sujet ici, c'est Christ, homme de Dieu, quoiqu'il fût bien plus que cela, envoyé de Dieu, prophète, venant à Israël pour rendre témoignage à sa ruine et au jugement qui en est la conséquence, témoignage qui avait commencé par Jean le baptiseur, cet Élie qui devait venir, mais en même temps aux promesses immuables de Dieu qui ne pouvaient être acquises que par Christ, un homme sans péché, pour en faire part à son peuple d'Israël restauré. Il ressort de tout cela que, comme du reste dans tout l'Ancien Testament, il ne faut pas chercher ici la bénédiction proprement dite de l'Église. L'histoire d'Élie et d'Élisée se rapporte uniquement à Israël. Et cependant, l'enlèvement d'Élie, comme celui d'Énoch, nous parle en type de l'enlèvement des saints, dont l'Église fait partie. On pourrait dire que cet enlèvement est caché mystérieusement dans l'ascension d'Élie, tandis qu'il est représenté dans celui d'Énoch. Note 1, Apocalypse 12, verset 5, nous présente un exemple analogue. Dans le premier cas, Christ est en vue, dans le second, ceux qui sont de Christ. Faisons remarquer à ce propos que deux hommes, Énoch et Élie, sont montés au ciel sans passer par la mort, tandis qu'un seul, Christ, est ressuscité d'entre les morts pour monter au ciel. Note 2. Énoch a plus d'un trait de ressemblance avec Élie. Tous deux sont des prophètes de jugement. Énoch marche avec Dieu. Élie se tient devant l'Éternel. Tous deux sont enlevés avant le jugement final dont ils ont rendu témoignage. C'est pourquoi il est appelé le premier-né d'entre les morts, précédant les saints dont il est les prémices en résurrection. D'autres morts furent ressuscités avant Christ, mais pour la terre, jamais pour le ciel. Ils étaient sujets à mourir de nouveau, tandis que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Élisée, serviteur. Nous avons vu précédemment que le personnage d'Élie pouvait être considéré sous plus d'un aspect, comme prophète, comme type du précurseur, comme type de Christ. Pour Élisée, il en est de même. Il est d'abord l'image du parfait serviteur. Dès le jour où, rencontrant Élisée, Élie jeta sur lui son manteau de prophète, le nouveau venu avait suivi et servi fidèlement son maître. Aussi n'était-il connu que pour avoir verser l'eau sur les mains d'Élie. 1 Roi 19, verset 21, 2 Roi 3, verset 11. Comme il convient au vrai serviteur, jusqu'à son entrée dans le ministère public, il s'efface, et l'on n'entend plus parler de lui. Il possède cependant le manteau prophétique qui lui avait été conféré par Élie pour exercer à sa place le jugement sur la terre d'Israël. Mais il n'en fera usage qu'après l'enlèvement de son maître, quand il aura reçu, avec une double mesure de l'esprit d'Élie, un second manteau prophétique tombé du ciel qui le rendra capable d'exercer un ministère de grâce. Élisée est un bel exemple de chrétien, serviteur de Christ. Là où est son maître, là il sera. Jean 12, verset 26. À Bethel, à Jéricho, les fils des prophètes lui disent « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Il répond « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Sa connaissance ne peut lui être communiquée par les fils des prophètes, car il est prophète lui-même en vertu d'un ordre divin spécial. Mais ce qui le distingue avant tout, c'est qu'il a tout quitté pour suivre son maître, son seul objet, la seule source de bénédiction pour son âme. Sans Élie, Élisée n'est rien, ne veut rien être. Élie est celui sur lequel ses affections se concentrent. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante que je ne te laisserai point. Élie lui avait dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel, puis à Jéricho, puis au Jourdain. L'Éternel m'envoie. C'est l'obéissance d'Élie. Mais si Élie obéit, Élisée ne doit-il pas le suivre? Il en est de même pour nous. Nous pouvons être certains de suivre le chemin de Dieu en suivant celui de Christ. Élisée n'avait pas reçu d'ordre spécial quant à sa conduite, mais il s'attache à Élie qu'il avait reçu et qui est pour lui l'homme de Dieu, son représentant. La foi d'Élisée est éprouvée tout du long. « Reste ici, je te prie, » lui dit le prophète. « Reste à Gilgal, au lieu du jugement de toi-même, de la chair, où l'opprobre de l'Égypte a été roulé de dessus le peuple. Recommence une fois encore l'histoire d'Israël. » Non. Ce serait recommencer une épreuve irréalisable. Seul l'envoyé de Dieu peut suivre ce chemin. L'Éternel est vivant que je m'attacherai à lui. Élisée traverse Gilgal avec Élie, comme nous avec Christ. Je ne te laisserai point. Le recommencer pour nous-mêmes? Jamais. Notre Gilgal, c'est la croix, la circoncision du Christ. Comme nous, Élisée a trouvé auprès d'Élie tout ce que Gilgal peut lui offrir, et de fait, quand plus tard il repasse le Jourdain, Gilgal ne fait plus partie de son itinéraire. À Bethel, lieu des promesses assurées faites au Père, « Reste ici, » dit Élie. « Tu ne manqueras pas de les obtenir d'un Dieu qui ne peut mentir, puisque tu as passé à Gilgal avec moi. » Non, je ne te laisserai point. Si tu ne les reçois pas maintenant, comment les atteindrai-je sans toi? Quand tu les auras obtenus, il sera temps que je demeure à Bethel. » Voici maintenant que les fils des prophètes éprouvent sa foi. Irais-tu plus loin puisque ton maître va t'être enlevé? Je le sais aussi, taisez-vous. Vous ne pouvez comprendre le ressort qui me fait agir. C'est lui, lui-même. Sa personne est ce qui m'attire et résume tout pour moi. Me séparer un instant de lui, ce serait perdre une bénédiction que je connais faiblement encore, que je pressens avec mon cœur plus qu'avec mon intelligence, mais que j'aurai sûrement, si je ne l'abandonne pas, car je sais que lui l'atteindra. Reste à Jéricho, Élisée, dit Élie. Moi je suis envoyé plus loin. Non. Pourrais-je jamais ressentir, plus que toi, la malédiction qui plane sur cette cité? Puisque toi, mon Seigneur et mon Maître, tu n'y remédies pas en ce jour, pourrais-je y remédier moi-même? Il me faudrait pour cela une puissance personnelle, et je ne la possède qu'en toi. Tant que je ne l'aurai pas, pourquoi m'arrêterai-je? Taisez-vous, prophète. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Ici, plus de mise en demeure de rester. Élie prend Élisée avec lui, le conduit à travers le fleuve de la mort dans la puissance de l'esprit auquel elle ne peut résister, dans la puissance triomphante d'une vie qu'elle ne peut engloutir. Un manteau qui appartient à Élie est capable de faire ces choses. Oh, quelle association bénie pour Élisée! Ils s'en allèrent tous deux. Eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Ils passèrent, eux deux, à sec. Élie n'y passe pas pour lui seul, mais pour y faire passer Élisée avec lui. Élisée, cet autre « moi » d'Élie, va sortir de la mort avec lui, puis il reviendra en délivrance pour Israël. Les fils des prophètes, qui avaient annoncé l'enlèvement d'Élie, ne jouent pas ici un rôle inutile. En eux, la prophétie est le témoin à distance de la victoire sur la mort, comme elle est aussi, peu après, celui de retour, en grâce pour Israël, d'une double mesure de l'esprit d'Élie qu'Élisée va recevoir. Ils disent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Verset 15. Maintenant, quand eux deux ont passé le Jourdain, Élie dit à Élisée « Demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi ». Élisée répond « Qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi ». Et il dit « Tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. » Versets 9 et 10. Pour qu'Élisée obtînt cette double mesure, il ne suffisait pas que sa foi et son affection pour son maître eussent été mises à l'épreuve. Il fallait encore de la vigilance, afin de ne pas perdre de vue le prophète au moment de son départ. Ils allaient marchant et parlant, verset 11, en apparence occupés de divers sujets. Mais l'œil d'Élisée ne gardait qu'un seul objet dans le champ de sa vision. Il pouvait s'intéresser à toutes les choses que lui communiquait le riche cœur de son maître, mais son œil était simple. Il ne voulait point manquer l'instant solennel. Nous ne sommes pas appelés, comme Élisée, ou comme les premiers disciples, à voir Jésus montant au ciel dans la nuée, mais ne devons-nous pas avoir la même attitude au sujet de sa venue que au sujet de son départ? Ne devons-nous pas, si nous l'aimons véritablement, marchant et parlant, dans l'accomplissement de nos devoirs journaliers, l'attendre sans distraction? Car il s'agit de le voir en un clin d'œil. Oh, que notre attente soit continuelle et vigilante comme celle du serviteur d'Élie. Et il arriva, comme ils allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Ce char et ses chevaux de feu, ce sont des anges. Deux Rois 6, verset 17. Répondant par leur apparence au caractère d'Élie qui, prophète de la loi, avait agi par le feu du jugement au milieu d'Israël. Il n'en fut point ainsi lors de l'ascension du Sauveur. Un cortège angélique envoyé pour le servir ou le convoyer dans le ciel ne lui était point nécessaire. Il y est monté par le pouvoir qui lui était propre, ayant été déclaré fils de Dieu en puissance par la résurrection. Une nuée, habitation de la gloire divine, le reçut immédiatement et l'emporta de devant les yeux des disciples. Acte 1, verset 9. et notre ascension sera semblable à la sienne. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Mais quand il reviendra comme fils de l'homme pour juger le monde, il sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance en flammes de feu. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et nous-mêmes et tous les saints, les armées du ciel, nous serons accompagnés de myriades d'anges. Apocalypse 19, verset 14, Hébreux 12, verset 22, Jude 14, Deutéronome 33, verset 2, Zacharie 14, verset 5. Et lorsqu'il reviendra comme Messie, l'Éternel commandera à ses anges qui le porteront sur leurs mains, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 11 et 12. Élisée s'écrie « Mon Père !» marquant ainsi qu'il a vu, selon la parole d'Élie, son protecteur monter au ciel. Mais il reconnaît aussi en lui le vrai Israël. « Char d'Israël !» Cette exclamation prouve, encore une fois, combien toute cette scène nous présente en type le Christ, le grand prophète d'Israël, et non pas le Sauveur en rapport avec l'Église. C'est comme prophète, vrai envoyé, vrai Messie, vrai Israël, qu'il est envoyé dans les cieux ici. C'est comme Fils de l'homme et Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur, qu'il y a été transporté et qu'il en reviendra pour nous. Le manteau d'Élie tombe de dessus lui, parce que son serviteur l'a vu montant au ciel. Ce manteau appartient maintenant à Élisée. De même, nous aurons toujours avec nous la puissance de l'Esprit, si nous sommes attachés à Christ et si nos yeux le suivent là-haut. Élisée déchire ses vêtements en deux pièces. Ils ne lui serviront plus désormais, car il possède le manteau d'Élie, la double mesure de son esprit. C'est dans cette puissance qu'il va marcher au milieu d'Israël. Puisse-t-il en être de même pour nous? Puissions-nous déchirer notre ancien vêtement après avoir revêtu Christ pour le représenter, lui, au monde en témoignage? Chapitre 2, versets 13 à 25. Élisée ou Christ en esprit. C'est ici que nous voyons se dessiner d'une manière bien nette la figure comme type du prophète Élisée, car nous avons déjà mentionné au commencement de ce chapitre son caractère essentiellement typique. Si Élie, au dernier jour de sa carrière ici-bas, représente Christ comme témoin prophétique en Israël, que représente donc cet Élisée qui lui est si intimement associé, accompagnant son témoignage, passant le fleuve de la mort avec lui, recevant lors de son ascension une double mesure de son esprit? Pour être bien compris, commençons par un petit aperçu prophétique. Pendant la carrière du Messie ici-bas, quelques disciples constituant un faible résidu, juifs, fidèles, séparés moralement de la nation, persévèrent jusqu'au bout à suivre Jésus, loin de l'Éternel et l'envoyé de Dieu, le grand prophète d'Israël. Celui-ci, rejeté par la nation, les associa avec lui dans les résultats de sa mort et de sa résurrection. Nous ne parlons pas de la place qu'ils occupèrent dans l'Église. Cette dernière n'entre pas en scène dans les récits de l'Ancien Testament et pourrait, tout au plus, comme nous l'avons dit plus haut, être considérée ici comme cachée mystérieusement dans la personne d'Élie, Christ, montant au ciel. Nous parlons ici des disciples juifs, à la tête desquels étaient les 12 constituant alors le vrai résidu d'Israël. Comme tel, ils reçurent de lui une double mesure de son esprit, sous forme de miracles et d'actes de puissance, et furent capables d'accomplir au milieu du peuple de plus grandes œuvres que lui. On vit à la Pentecôte se réaliser, au point de vue juif, les choses annoncées par le prophète Joël. « Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Sans doute même à ce moment-là, la puissance d'en haut n'était pas limitée, selon Joël, aux enfants d'Israël, car Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Acte 2, versets 17 à 19. Quand la prophétie de Joël sera accomplie dans l'avenir, les nations auront part à ce don. Seulement, cette prophétie, indiquant la participation des nations au don du Saint-Esprit, permettait, le jour de la Pentecôte, d'ouvrir la porte à l'Église de Christ, à l'Église, parenthèse merveilleuse dans l'histoire des voies de Dieu, intervalle pendant lequel une assemblée céleste se forme ici-bas, corps composé de juifs et de gentils, et uni avec son chef ressuscité dans la gloire. Il n'en était pas moins vrai qu'un résidu juif, puissamment doté de l'esprit prophétique, était révélé à la Pentecôte aux yeux de tout le peuple. Pour en faire partie, il fallait avoir suivi le Messie pendant toute sa carrière sur la terre et l'avoir vu monter au ciel. Acte 1, versets 21 et 22. Si tu vois, dit Élie, quand je serai enlevé d'avec toi. Ce résidu, selon la prophétie de Joël, citée en acte 2, n'avait pas à ce moment-là atteint ses destinées finales et son plein développement. Il était au sens le plus strict du mot, représenté par les 12 apôtres. Les Juifs ont rejeté leur témoignage, se privant ainsi des temps de rafraîchissement prédits par le prophète, et Dieu s'est servi de l'incrédulité de la nation et de sa révolte contre le Saint-Esprit pour former l'Église, épouse du second Adam, os de ses os et chair de sa chair. Mais la parenthèse de l'Église se fermera et les temps prophétiques se rouvriront. Le résidu d'Israël, dont les prophètes et les psaumes nous entretiennent constamment, rentrera sur la scène avec le double de l'esprit prophétique d'Élie, se soudant pour ainsi dire aux disciples juifs qui avaient accompagné le Seigneur dans sa carrière. Notez bien qu'il ne s'agira, pour eux, comme pour Élisée, que de l'esprit d'Élie sur eux, soit en puissance miraculeuse, soit en intelligence prophétique, et non pas en eux, comme pour le chrétien. Par ce court exposé, nous ne prétendons nullement présenter Élisée le prophète comme un type du résidu. Ce serait comprendre bien imparfaitement l'importance de son rôle. Sans doute, l'esprit peut se servir de vase approprié à son usage, comme il se servait d'Élisée après l'ascension d'Élie. Mais quel que puisse être le vase, la chose importante est ce qu'il contient. Élisée, c'est l'esprit d'Élie, revenant en double puissance et en grâce pour bénir les fidèles du résidu et pour les rassembler. C'est Christ en esprit. L'esprit prophétique de Christ se servant d'instrument, sans doute, mais revenant à la fin des temps vers les fils des prophètes d'abord, c'est-à-dire vers le résidu proprement dit, puis vers ce qui a la foi en Israël quand l'apostasie est à son comble. C'est en faveur de ce résidu qu'Élisée fait des miracles, mais au milieu du peuple aveuglé par la révolte finale. C'est ainsi que les enfants du royaume que Christ établira sur la terre seront séparés par lui. Quant aux instruments humains dont l'esprit prophétique se servira à cet effet, nous ne sommes pas en mesure de les désigner spécialement. Qu'il suffise de dire que si Jean-Baptiste avait été reçu, il aurait été Élie qui devait venir, que, dans l'avenir, Élie reviendra et rétablira toute chose, qu'il y aura deux témoins, symbole de deux corps de témoins, à Jérusalem, agissant dans l'esprit prophétique et dans la puissance d'Élie et de Moïse. Le témoignage confié à Élisée a, comme nous l'avons déjà fait pressentir, un double caractère correspondant au double don du manteau d'Élie, 1 Roi 19, verset 19, 2 Roi 2, verset 13, un caractère de jugement semblable à celui que son maître, prophète de la loi, avait exercé ici-bas, jugement que Christ lui-même n'exécutera qu'à l'issue des temps de la grâce de l'Évangile, un caractère de grâce à l'égard de tout ce qui sera fidèle en Israël pour ramener à ses témoins ceux que touchera leur témoignage et pour la conversion des gentils. Élisée avait, une première fois, passé le Jourdain à pied sec, en compagnie de son maître, quand celui-ci, frappant les eaux de son manteau, obligea le fleuve de la mort à céder devant sa puissance. Resté seul, Élisée fait de même. Il se tint sur le bord du Jourdain, il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là, et Élisée passa. Versets 13 et 14. C'est toujours à Christ que l'Esprit rend témoignage. Élisée fait l'expérience du pouvoir du nom d'Élie sur la mort, non pas du sien propre. Il recommence l'histoire d'Israël au lieu où Élie avait passé, non pas au commencement, Gilgal, mais à la fin de sa carrière. Israël avait traversé autrefois le Jourdain, dans la chair, pour aller au-devant d'une ruine certaine. Élie l'a traversé pour monter au ciel et renvoyer ensuite Élisée dans le pays de la promesse avec son manteau de prophète et une double mesure de son esprit. Élisée traverse le fleuve en vertu du passage d'Élie, au nom d'Élie, avec le manteau d'Élie, lui aussi son représentant par l'esprit frappa les eaux. La mort est impuissante devant la puissance de l'esprit de vie en Élisée. Par l'esprit, vainqueur de la mort, ce dernier recommence l'histoire du nouvel Israël. Ce n'est plus un peuple dans la chair qui entre en Canaan pour être finalement rejeté. C'est un homme nouveau revenant au peuple dans la puissance de l'Esprit de Christ, vainqueur de la mort, un homme nouveau venant apporter au fils des prophètes, puis à la nation, et plus tard au gentil, Naaman, les fruits de cette victoire en délivrance. Les fils des prophètes reconnaissent ce pouvoir. Il en sera de même à la fin des temps. L'esprit prophétique reviendra à Israël avec une force toute nouvelle. Il exécutera sans doute dans la puissance d'Élie la vengeance contre les ennemis du peuple, contre les deux témoins de l'Apocalypse. Mais il s'agit ici de grâce bien plus que de jugement. Le témoignage sera en grâce pour la bénédiction des fidèles et le rassemblement du résidu tout entier. Les fils des prophètes, éclairés graduellement, reconnaîtront cette puissance et se rassembleront autour d'elle. L'histoire du vrai Israël, ayant son point de départ en Christ, pourra recommencer à la gloire de Dieu. Les fils des prophètes voient Élisée, verset 15. Ils étaient à Jéricho, le lieu de la malédiction. Ils ne connaissent pas encore l'ascension d'Élie, comme le résidu prophétique de la fin ne connaîtra pas, tout d'abord, la résurrection et l'ascension de Christ. Thomas, dans l'évangile de Jean, représente en figure ce résidu. Il a besoin de se convaincre, par la vue, de la résurrection de son Seigneur. Ainsi, les fils des prophètes, d'abord incrédules comme Thomas, vont chercher Élie. Ils voudraient trouver sur la terre celui qui a été enlevé au ciel. C'était peut-être un bon sentiment, en tout cas cette recherche prouve à la fois leur attachement à Élie et leur ignorance. Le Christ reviendra pour son peuple, mais c'est le diable qui dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là » quand il est encore dans le ciel. Aussi, Élisée, l'esprit prophétique envoyé par Christ, dit « N'y allez pas ». Mais il y a beaucoup de condescendance pour leur ignorance, car, une seconde fois, Élisée dit « Envoyez ». Versets 16 et 17. Il faut qu'ils soient convaincus que leurs espérances en tant que liées à l'ancien ordre de choses en Israël sont vaines. Les 50 hommes cherchent 3 jours et ne trouvent rien. On ne peut plus trouver le Messie ici-bas. Il est vivant, après avoir, à l'encontre d'Élie, passé en réalité par la mort, pour être le premier-né des morts, ce qu'Élie ne pouvait être. Ces hommes reviennent vers Élisée. Ce n'était pas aux anciens prophètes, ni aux résidus prophétiques de la fin, mais aux premiers disciples, de voir Christ monter au ciel. Il y aura un témoignage se rattachant aux leurs, comme ayant reçu la double mesure de son esprit. Les fils des prophètes, malgré leurs bonnes intentions de leur cœur, n'agissaient pas selon l'esprit. Pendant ce temps de recherche, où la conviction se fait dans l'esprit des fils des prophètes, Élisée habite à Jéricho, dans le lieu de la malédiction. Verset 18. Mais il est en bénédiction aux hommes de la ville, car il n'a pas uniquement les prophètes en vue, tandis que le travail a lieu dans le cœur de ces derniers. Il y a place pour la bénédiction sur une plus vaste échelle. Le peuple s'adresse à Élisée. Jéricho, rebâti sur le lieu du jugement et contre les pensées de Dieu, était bon par son emplacement. Ce n'était pas le choix de Jéricho qui était mauvais, car, à l'entrée du peuple en Canaan, cette cité de l'ennemi était devenue le lieu de la puissance divine et de la victoire. Ce qui était mauvais, c'était ce que les hommes en avaient fait, une cité contraire aux pensées de Dieu, vraie offense à sa volonté. Aussi le résultat de la désobéissance d'Yel était que la source alimentant la ville était corrompue et qu'on devait y mourir. En outre, la terre était stérile. Aucun fruit ne pouvait en sortir. Pour qu'une source de vie pût y jaillir, il fallait du sel dans un vase neuf, une vraie mise à part pour Dieu contenue dans une nouvelle nature. Elle seule pouvait remédier aux conséquences de la corruption amenée par le péché et par la désobéissance du peuple, car la parole ne parle de ces eaux corrompues qu'après la désobéissance d'Yel. 1 Roi 16, verset 34. Le résidu prophétique seul, le sel dans le vase neuf, pourra remplir cet office, car, comme les 12 qui entouraient le Seigneur, il portera à la fin des temps ce vrai caractère des enfants du royaume. Matthieu 5, verset 13. Tels sont donc les 2 premiers fruits du retour d'une double mesure de l'esprit prophétique. Ceux du peuple qui étaient prophètes deviennent les témoins du fait que le Messie n'est pas dans ce monde et qu'il a été enlevé au ciel. Le peuple s'adresse aux représentants de Christ ici-bas et retrouve la bénédiction par un vrai esprit de sainteté caractérisant le nouvel homme, voyez le caractère du résidu de la fin dans les psaumes, et versé où était auparavant une source de mort et de stérilité. La parole aura son rôle dans cette œuvre, car la bénédiction est répandue par la parole prophétique. La parole qu'Élisée avait prononcée, verset 22. Élisée dit « Quelle grâce pour ces hommes accablés sous les conséquences de la malédiction divine. J'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. » Verset 21. Tel est le résultat définitif du témoignage du Saint-Esprit en Israël à la fin des temps. La bénédiction spirituelle remplace toute la misère sous le poids de laquelle une partie de ce pauvre peuple, livré à l'apostat, était courbée. C'est le grand fait capital représenté en type par l'habitation d'Élisée à Jéricho. Mais un autre fait ne doit pas être passé sous silence. Versets 23 et 24. Élisée monte à Bethel. De petits garçons représentant le peuple inintelligent, moqueur et incrédule sortent de Bethel au moment où le prophète va rencontrer Dieu dans sa maison, dans le lieu de ses immuables promesses. Quelle anomalie ! Des enfants, créés pour la louange, se moquent de l'homme de Dieu. Un âge caractérisé selon les pensées de Dieu par la confiance et le respect pour ce qui est au-dessus de lui, outrage le prophète. Au lieu de reconnaître le Dieu des promesses, il se moque de son serviteur et le méprise. « Monte, chauve !» lui crie-t-il, parce qu'il porte sur lui les signes de la décrépitude, de la vieillesse et de l'opprobre. Tel le résidu dans les psaumes. Psaume 71, versets 9, 18, etc. Et cependant, la loi déclare un tel homme pur et non souillé. Lévitique 13, versets 40 et 41. Ceux dont Dieu devait attendre la simplicité de foi rejettent le représentant et le témoin du Messie, identifié avec le résidu faible et courbé, et plaisante sur son apparence. Il semblerait aussi qu'il se moque d'Élie, son maître. « Monte, chauve » disent-ils. Il ne croit pas à l'enlèvement d'Élie. Une pareille folie n'est pas même bonne pour des enfants. Où est la promesse de son avènement? Le monde n'est-il pas le même dès aujourd'hui? Ces outrages sont d'autant plus odieux qu'ils s'adressent à l'Esprit de Christ, revenant en grâce et non pas en jugement comme Élie. Élisée se tourne en arrière, car il a devant lui les promesses et non le jugement, et il les maudit au nom de l'Éternel. Ils deviennent la proie d'une puissance inexorable et cruelle qui les saisit et les déchire. Et de là il se rendit à la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie, verset 25. Le peuple apostat n'a pas voulu de Bethel, mais le résidu prophétique, après avoir recouvré les promesses faites à Christ, se retire au Carmel. Il arrive dans un champ fertile pour y jouir de la paix et de la communion avec son Dieu. C'est là qu'Élie était monté après le jugement des prêtres de Baal, là qu'Élisée monte après la malédiction des moqueurs. Carmel était pour Élie le lieu de l'intercession. De là, une pluie bienfaisante de bénédictions était descendue sur Israël. « L'Esprit, dit Ésaïe, sera répandu d'en haut sur nous, et le désert deviendra un champ fertile, un carmel. Et la justice habitera le champ fertile, et l'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité à toujours. Et mon peuple habitera une demeure de paix et des habitations sûres, et des lieux de repos tranquilles. » Ésaïe 32, versets 15 à 19. Nous arrivons donc ici à la fin du cycle typique, à la bénédiction millénaire. Le retour d'Élisée à Samarie ramène, dans une mesure, le prophète au milieu des événements de l'histoire. En terminant ce chapitre important, résumons en quelques mots la carrière close maintenant d'Élie et celle d'Élisée dans ce passage. Élie, le grand prophète de la loi, a rapporté à Dieu cette loi violée en Horeb. Il juge les prophètes de Baal. Il juge Achab et Jézabel, il juge Akasia et ses satellites par le feu du ciel, il désigne Azaël et Jéhu comme exécuteurs du jugement. Il n'est en cela type de Christ que parce que ce dernier exécutera le jugement, mais après le temps de la grâce. Il est par contre le type du précurseur Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance. Malachie 4, verset 5, Matthieu 11, verset 14, Luc 1, verset 17, Matthieu 17, verset 10 à 12. Élie, prophète rejeté, se tourne vers les nations, veuve de Sarepta, ressuscite leurs morts, envoie la pluie de bénédiction sur Israël. Il représente, en cette qualité, le ministère de grâce apporté par le Seigneur. Élie refait le chemin d'Israël comme étant lui-même le vrai Israël, acquiert les promesses, prend en grâce la place que le peuple s'est attirée par son infidélité, Jéricho, passe victorieusement le fleuve de la mort, est enlevé au ciel. C'est le chemin de Christ, serviteur et prophète en Israël. Élisée, d'abord type du résidu, serviteur de Christ, prophète, tel qu'il a marché sur la terre, le suit jusqu'au bout, dans toute sa marche de sainteté, et le voit monter au ciel. Élisée, l'esprit prophétique de Christ, avec le résidu, reçoit la double mesure de l'esprit de Christ monté au ciel, retrace le chemin de Christ, sauf Gilgal, la circoncision du Christ ayant eu lieu au Jourdain, dans la mort. Son chemin est avant tout un chemin de grâce et de restauration pour les habitants de la cité maudite, sauf le jugement sur les moqueurs de la fin qui font partie du peuple apostat. Les fils des prophètes sont le résidu prophétique, l'élément saint mais ignorant du peuple, avant qu'Élisée revienne à eux avec le double de l'esprit d'Élie. Enfin, Élisée habite en paix, dans le champ fertile des bénédictions millénaires.